J'aimerais ce matin poursuivre ma série sur les obstacles à une bonne marche spirituelle du chrétien. La fois passée, j'avais parlé des obstacles, j'avais parlé de l'échec comme obstacle pour permettre à un chrétien de grandir spirituellement, d'aller de l'avant, de vivre sa vie chrétienne, d'être vraiment explosif pour Dieu, être apporté plus pour l'avancement du royaume de Dieu. L'échec, le sentiment d'échec, ce qui nous reste de l'échec, peut être un obstacle. Aujourd'hui, j'aimerais proposer quelque chose. La deuxième chose, c'est la souffrance. Deuxième obstacle, la souffrance. Alors, j'aimerais simplement dire que je suis impressionné par la manière dont le Seigneur conduit les choses. Avez-vous remarqué que Paul... Alors, vous savez quoi? Je crois que... Ça va très bien, tout va bien. Je commence à paniquer parce que je n'avais plus ma feuille. Vous avez remarqué que Paul n'a pas arrêté de parler des situations diverses de la vie qui concerne la souffrance. Je dis, tu as crié mon message, hein, toi. Si ça continue comme ça, je vais avoir rien à dire. Ben, Paul a tout dit et puis moi je m'en vais. Bonjour, au revoir. Je pense que le Seigneur nous conduit, n'est-ce pas? C'est pas par hasard, n'est-ce pas, qu'il a pris tous ces versets qu'il a pris ce matin. On ne s'est pas concerté. Voilà. D'ailleurs, si on s'était concerté, on n'allait même pas faire aussi mieux. Voilà. Donc, le Seigneur conduit son Église et par le Saint-Esprit, parfois fait que la présidence, la prédication s'harmonise et se rencontre. Donc, le thème autour duquel je vais tourner aujourd'hui, ce sont des choses que vous avez un peu entendues avec Paul ou qui continuent ce que Paul a déjà dit ce matin. Qu'est-ce qui peut entraver notre vie? Qu'est-ce qui empêche que le chrétien avance et soit riche? Qu'il ait une vie chrétienne fructueuse pour le Seigneur et pour les autres? La souffrance peut être aussi cet obstacle-là. Et je voudrais que vraiment ce matin nous puissions y réfléchir un peu, méditer là-dessus. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, inclinons d'abord dans la prière. Seigneur, merci pour ta présence ce matin, comme dimanche passé, comme tous les dimanches. Merci pour ta présence simplement dans nos vies. Merci pour ce que tu as envie de nous apporter. Déjà, pour tout ce que tu nous as déjà apporté en Jésus-Christ, parce que tu nous as déjà donné tout ce qui contribue à la piété et à la vie en toi. Merci aussi de continuer ce travail-là, de nous enrichir encore et encore, pour que nous soyons ces hommes, ces femmes, formés, équipés, ces hommes, ces femmes capables de te servir et capables de faire ta joie, Seigneur. Et merci encore ce matin de nous aider à travers cette méditation pour que nous puissions toujours nous positionner comme ces serviteurs performants pour ta gloire. Nous te le demandons et conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Comme je disais aussi la fois passée, nous sommes confrontés aujourd'hui à un vrai défi dans ce siècle-ci. C'est celui de montrer le vrai visage du christianisme. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est chrétien, c'est vague. Vous êtes d'accord avec moi? Les chrétiens, vous avez votre enfant qui vient, qui dit, bon, papa, maman, je me marie. Ah, ok, vérification faite. C'est un chrétien? Oui, c'est un chrétien. Ah ouais, bah oui. Seulement le problème, c'est que il y a chrétien et chrétien. Il y a la formulation du mot chrétien qui devient bateau. On a beaucoup de gens, il suffit de dire j'accepte les traditions chrétiennes pour être chrétien. J'accepte, le message évangélique, je suis chrétien. Je viens d'une famille chrétienne, je suis chrétien, etc., etc., etc. Nous avons aujourd'hui le défi de montrer le vrai visage du christianisme à des chrétiens qui sont des disciples de Jésus-Christ. Des personnes qui ont fait cette expérience personnelle de la rencontre avec Jésus. Les personnes qui, dans cette rencontre, ont vu leur vie transformée. Ce n'est pas simplement une conversion sociale, une conversion d'apparence. Ce n'est pas une conversion, je dis, ouais, je suis devenu chrétien, mais... Mais on voit véritablement une conversion dans le sens que la vie de la personne change. Ça change pas parce que la personne fait des efforts. Ça change parce qu'il laisse Christ régner en lui, dans sa vie. Il commence à renoncer aux choses. Il commence à manifester plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Il commence à aimer se retrouver avec des chrétiens, sans que ça soit quelque chose qu'il doit dire, « Ah ouais, il y a Marianne qui va être là. Il faut que... » Je vois quand même Marianne, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vue. Il n'y a plus ça. Il n'y a pas un intérêt. Il y a juste que je veux être avec mon Dieu. Des chrétiens qui se manifestent vraiment l'amour qui s'aime entre eux. Des chrétiens qui montrent une unité, une vraie, pas une unité sociale, culturelle, d'apparence, mais une unité du fond du cœur, une unité qui m'emmène à communier avec l'autre, une unité qui m'emmène à former une communauté avec les autres, en ayant cette idée que nous avons le même Père, nous avons le même Esprit, nous avons une même foi, nous avons le même Seigneur, une même destinée céleste. Nous avons besoin aujourd'hui des chrétiens dont les actions sont puissantes en fruit. Des gens, quand ils se mettent à genoux, ils prient, ils invoquent le Seigneur. Des gens qui ouvrent la bouche pour parler de Dieu. Et qui, à travers leur façon d'être, sont des véritables témoins pour manifester la grâce de Dieu. C'est le défi que nous avons. Mais vous êtes d'accord avec moi que la situation est loin d'être toujours cette réalité-là. Et parfois, nos relations fraternelles, nos relations dans la famille, dans le couple, ne sont pas toujours de cet ordre-là. Ce matin, je voudrais que nous examinions la souffrance. Et pardonnez-moi, je ne suis pas encore un professionnel du PowerPoint, tu peux mettre. Hein. Je n'ai pas honte de mon travail, même si c'est nul. Hein. Oui, non, je ne suis pas très brillant. Hein. Alors, les obstacles à la bonne marche spirituelle, deuxième obstacle, la souffrance. Alors, je voudrais avoir juste à introduire avec deux idées que vous allez voir se défiler. La première idée, c'est que la souffrance est le lot des êtres humains, de tous les êtres humains. Ça fait partie de notre existence. La deuxième chose, c'est que la souffrance est comme ce compagnon dont on ne désire pas la compagnie. Vous savez, ces potes-là qui viennent chez vous dire « Oh, encore lui !» Ces gens, quand, vous savez, les femmes peuvent le dire avec certaines belles-mères, n'est-ce pas? Quand la belle-mère, vous dites la belle-mère va arriver, mon Dieu, oh. Enfin, je le sais en tout cas par ma mère, parce que ma grand-mère paternelle, quand elle annonçait à ma mère qu'elle allait venir, je voyais ma mère, si elle pouvait devenir grise, je la voyais le visage changer. Elle pensait déjà à toutes les misères qu'elle allait vivre. Et c'était pas faux, hein. C'était pas faux. J'avais une grand-mère fantastique. On préparait la nourriture était dans le feu, elle prenait ça, à même la cuillère, on goûtait comme ça, la nourriture que tout le monde allait manger. Hein. Alors, elle disait, ouais, je dois goûter pour voir si mon fils est bien nourri. C'est quelque chose. La souffrance, c'est quelque chose qui se manifeste par un dérangement, quelque chose qui fait mal, qui dérange. C'est difficile à définir la souffrance, en fait. On peut la définir par quelque chose de douloureux dans notre corps, quelque chose de douloureux dans notre cœur, quelque chose de douloureux dans notre tête. La souffrance, c'est ça. Ça peut être dans le corps, la maladie, un choc, un contact brutal. Ça peut être dans la tête aussi, l'anxiété, la dépression, la peur. Ça peut être aussi dans le cœur, au niveau des émotions, toute la peine, toute la haine, la rancune, tout ce qui est ressentiment dans notre cœur. C'est en tout cas un état qui ne nous met pas à l'aise. C'est un état, au contraire, qui nous met mal à l'aise. C'est quelque chose qui nous fait mal. Et pourtant, la souffrance fait partie de la vie de tous les êtres humains. Les médias se font beaucoup d'argent en parlant de nos misères, de nos souffrances. Vous ouvrez la radio, la télé, les journaux, on ne parle que de ça. Des gens qui souffrent, des gens qui meurent, des gens qui sont violentés, des gens qui sont en guerre, des gens partout, tu tournes par tous les yeux, il y a la souffrance. Les hôpitaux sont remplis de gens qui sont en souffrance, des malades, à plusieurs niveaux. Dans les maisons, chaque famille a son lot de souffrance. Les pharmacies, qu'est-ce que les pharmacies vendent le plus? Des analgésiques, c'est-à-dire des antidouleurs. Plus les Dafalgan, ça se vend à des milliards plutôt que d'autres médicaments. Parce que les gens souffrent. Alors, la question c'est, si la douleur, si la souffrance guette tout le temps les êtres humains, et que parfois aussi elle nous envahit, je ne dis pas que nécessairement tout le monde souffre de la même façon et tout le temps, parfois on a des périodes d'accalmie où on ne souffre pas, Dieu merci, mais la souffrance nous envahit d'une manière ou d'une autre. Ça n'épargne personne. Ça veut dire que ça n'épargne pas non plus les chrétiens. Beaucoup de chrétiens s'illusionnent sur le fait que, et d'ailleurs j'entends parfois des prédications, on dit, viens à Jésus, tu ne souffriras plus, tu n'auras plus de misère, tout va bien. Je crois que cette personne-là n'a pas lu la première épître de Pierre. Il n'a pas lu l'histoire de Job. Il n'a pas lu l'histoire de Jacob. Il n'a pas lu l'histoire d'Abraham. Il n'a pas lu l'histoire de David. Il n'a pas lu l'histoire de Moïse. Il n'a pas lu des histoires dans la Bible. Il n'a rien vu, lui. Malheureusement, la souffrance nous rend malheureux. La souffrance nous plonge dans la révolte, dans la colère, dans la dépression, dans le désespoir, dans la résignation, dans la fatalité. La souffrance peut conduire quelqu'un à un suicide. Merci d'avoir anticipé avec le témoignage de cette dame qui, à cause de la souffrance, en était venue à se rebeller même contre Dieu. J'ouvre juste une parenthèse pour dire deux choses. Même si ça ne rentre pas dans la prédication, j'estime que c'est très important pour notre façon de vivre ensemble. Première chose que j'aimerais dire, c'est que l'être humain est un être qui est fragile. Vous savez, on peut détruire un être humain très facilement. Moi, je suis criminologue. De par mes études, on nous a appris comment il faut faire pour qu'un être humain puisse mourir très, très, très vite. C'est un être fragile, l'être humain. Donc, ne jouons pas avec la vie des autres. Ne faisons pas le mal aux autres en étant conscients que nous leur faisons du mal. Ne jouons pas des sales tours aux gens en nous disant « c'est un sale tour, mais je vais le jouer quand même parce qu'il le mérite. » Parce qu'on peut tuer quelqu'un. L'être humain, non seulement c'est un être fragile, il faut faire attention, mais je veux aussi dire une autre chose. Deuxième chose dans la parenthèse, quand quelqu'un vous dit que j'ai mal, je souffre, il ne faut pas dire « tu mens ». C'est de la comédie. Soyons à l'écoute. Quand quelqu'un te dit « j'ai mal », soyez curieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En quoi t'as mal? Décris ton mal. Parce qu'on peut voir mourir des gens simplement parce qu'on n'a pas voulu les écouter. Ça va être surtout les gens qui nous font beaucoup rire, là. Les gens qui font toujours rire, les gens, là. Ils disent « ah, j'ai mal !» Oh, c'est encore pour nous faire rire, arrête un peu. Ou les gens très solides, les gens qui ne se plaignent jamais, qui disent « j'ai mal », on dit « oh, mais, oh, ça c'est rien, toi, t'es très solide, toi ». Sois prise au sérieux et fasse l'objet d'une aide véritable de notre part. Veillons à ce que nous ne soyons pas des gens méchants méchants qui faisons du mal aux autres volontairement, sciemment, en calculant correctement. Je fais ça pour qu'il lui fasse ça. Je ferme ma parenthèse. Premier point, qu'en est-il des chrétiens? J'espère que tu t'en sortiras, Jacob, parce que tu ne sais pas ouvrir ça. Comment? Ouais, c'est... Je me pardonne, je lui pardonne parce que c'est ma technologie qui est parfois problématique. On va continuer quand même en attendant. Suivez-moi. Ne laissez tomber la technologie, ce n'est pas très grave. Hein. Premier point, qu'en est-il pour nous les chrétiens? La Bible est remplie d'histoires, de souffrances, des hommes et des femmes à tous les âges de la vie. Donc ça veut dire que ça ne s'enchaîne pas. Hein. Bon, c'est pas. La prochaine fois, je ferai ça avec Richard. Je lui dirai ce que je dois faire. Et à mon avis, je me doutais bien que. Voilà. Bon. Jaco, t'as pas de souci à te faire. C'est moi qui suis un peu technologiquement un peu arriéré, mais c'est pas grave. Qu'en est-il pour les chrétiens? La souffrance est omniprésente dans la Bible. La Bible est remplie d'histoires, de souffrances des hommes et des femmes à tous les âges. Je vous ai parlé de Joseph. Joseph va être vendu par ses frères parce qu'il le déteste. Il va être fait esclave dans un pays étranger. Il va connaître toutes sortes de problèmes. Il va aller en prison. Il va connaître des moments difficiles de sa vie. Pourquoi? Ce n'est pas une circonstance qui est due à lui. Hein. Lui n'a rien fait de mal. Mais il se retrouve dans cette situation. Vous connaissez Naomi? La belle-mère de Ruth. Son mari fait un mauvais choix. Il se retrouve au pays de Moab. Un homme qui habitait à Bethléem. Il se retrouve au pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de la famine dans son pays. Il fait le choix d'aller dans un pays étranger. Et là-bas, c'est la catastrophe. Malheur sur malheur. Elle perd ses deux fils. Elle perd son mari. Et elle reste avec ses belles filles. Naomi va jusqu'à dire aux gens, appelez-moi Mara. Ça veut dire, appelez-moi amertume. Parce que je suis amère. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Appelez-moi amertume. Job. Voilà un bonhomme qui est impressionnant. Très impressionnant. Il va connaître des circonstances malheureuses de sa vie, mais qui ne dépendent pas de lui. Il va tout perdre. Tout. Et même être criblé de maladies et de souffrances physiques. La Bible est remplie des situations incroyables de souffrances. Et nous, dans la Bible, nous voyons que l'origine de la souffrance existe. Genèse chapitre 3, versets 14 à 19. Nous voyons que... Ah oui, c'est vrai, je te sors dedans, je te range, je sors. Ben. Regardez, l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, la désobéissance, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux de champ, tu marcheras sous ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié, souffrance, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, souffrance, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le péché, c'est le point d'entrée. C'est le point de départ de notre souffrance. C'est à cause du péché que nous souffrons. Ce que Dieu fait là, ce n'est pas la malédiction de Dieu, c'est la conséquence du péché. Mais, ce qui est encore surprenant avec la pensée biblique à propos de la souffrance, c'est que Dieu se sert de nos souffrances pour nous perfectionner, changer notre caractère, pour nous discipliner, pour nous orienter sur le chemin, pour nous former. La souffrance est donc un bâton entre les mains de Dieu, un peu comme le bâton du berger. Vous savez que le berger a un bâton. Le bâton du berger, ça sert à diriger le troupeau. C'est pas un bâton pour lui faire du mal, mais c'est un bâton destiné à conduire et à orienter les brebis. Et donc la souffrance est le bâton de l'Éternel, notre berger. Dieu se charge de notre vie spirituelle, de notre progression spirituelle, notre formation spirituelle. Il se charge de ça en utilisant la souffrance. Son but n'est pas du tout de nous faire du mal, mais au contraire, de tirer le meilleur profit de nous afin que nous soyons sa plus grande gloire. Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Nous allons lire quelques versets là. « Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais regardez, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage, c'est le fait d'enlever le trop-plein de branches, le trop-plein d'herbes, de branches. Et donc, on fait en sorte qu'il y ait le moins possible de branches afin que les fruits puissent se manifester. Mais l'émondage, ça fait mal. Hein. Ça coupe. Hein. Ça génère des souffrances. Pourtant, le projet de Dieu, c'est que ça se fasse ainsi pour que ce sarment porte du fruit. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu utilise la souffrance pour nous corriger, pour nous aider à aller mieux, à grandir spirituellement, à aller de l'avant. Un autre texte, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, regardez ça. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, quoi ? Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Dieu donc utilise parfois la souffrance pour nous emmener sur le droit chemin, pour nous faire grandir. Pourtant, il faut le reconnaître, beaucoup de chrétiens sont malheureux, ils sont aigris, ils sont frustrés. Beaucoup sont dans leur souffrance. Beaucoup sont fâchés contre Dieu. D'autres deviennent tellement amers qu'ils empoisonnent la vie des autres. Alors évidemment, au lieu de progresser, ils régressent et deviennent vraiment méchants. Oh, que dis-je? Ils ne deviennent pas toujours gentils. Parce que de temps en temps, ce n'est pas qu'ils sont méchants tout le temps. Ils sont de temps en temps méchants. Mais ils ne sont pas toujours gentils. Parfois aussi, ils s'enferment comme dans une tour. Ils s'enferment dans leur tour de souffrance. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Mais au fond, dans sa tour, c'est la misère. Et le problème de ça, c'est quoi? C'est que quand je m'enferme dans ma souffrance, parfois, je ne me rends même plus compte que je fais du mal aux gens autour de moi. Parce que je pense que je suis dans ma souffrance, dans ma misère, et que je réagis par rapport à ça, je ne me rends plus compte que je fais du mal aussi aux autres, derrière, à côté. Alors, comment faire face à cet obstacle? Comment faire en sorte que les effets de la souffrance, le fait de ma souffrance ne devienne pas quelque chose qui me regresse spirituellement, mais que je comprenne que ma souffrance, elle est là pour me faire avancer. Que je comprenne que ma souffrance ne doit pas m'amener à trouver des raisons de faire du mal aux autres. Comment faire? C'est le point 2, si Jaco y arrive. Alors, j'aimerais pour ce point-là, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Mathias Malzieu. Ceux qui connaissent la musique, qui sont branchés sur la musique, connaissent le groupe Dionysos. Ce n'est pas un groupe que je fréquente, rassurez-vous. Mais un matin, j'étais en train d'écouter une émission Entrée sans frapper sur la RTBF, et cet homme est venu donner son témoignage sur sa situation. Ça m'a vraiment scotché. J'aimerais vous partager cette histoire. Donc ce monsieur, donc Mathias Malzieu, un jour, pendant qu'il est en train de préparer un casting ou je ne sais pas moi quoi qu'il faisait, c'est un musicien, hein, c'est un chanteur, au départ c'est sûrement le leader du groupe Dionysos. Un jour il se sent faible, il se sent tellement faible que ça l'intrigue et il va à l'hôpital pour faire une prise de sang. Il arrive à l'hôpital, tout de suite il voit tout de suite que l'affaire prend une tournure beaucoup plus grave qu'il croyait. Et tout de suite on lui dit, voilà, vous souffrez, monsieur, d'une maladie grave qui s'appelle la plasie médulaire. Peut-être ceux qui sont les infirmières ou les connaisseuses du connaissent ça. C'est une maladie qui atteint donc la moelle osseuse et les plaquettes. Et donc, qui les affaiblit fortement. Et donc, il y a un risque de faire tout le temps de l'hémorragie et même de faire une crise cardiaque et de mourir assez rapidement. Donc, on le garde à l'hôpital parce qu'il faut lui changer tout le sang. Et donc, voilà, le type, il est parti faire une prise de sang, en se disant, c'est juste une prise de sang, je rentre chez moi, je vais voir un peu ce que ça donne, etc. Et là, il se retrouve bloqué à l'hôpital, on lui dit, tu ne sors plus, tu restes ici. Et là, on lui dit, voilà, tu vas devoir organiser ta vie autour de cette maladie et des soins que l'on va apporter à cette maladie, parce que de toute façon, tu n'as plus le choix. Alors, il se pose une question, et je pense que c'est une question intéressante. Le voilà dans une situation difficile. Il dit, comment est-ce que je vais trouver des solutions pour arriver à dépasser cette situation de souffrance, et comment je vais faire les choses, je vais faire en sorte que les choses continuent à se faire, que la vie continue, malgré cette menace, parce que cette intervention, ces soins étaient aussi risqués, aussi c'était 50%, ça pouvait fonctionner comme ça ne pouvait pas fonctionner. Comment organiser son temps? Comment organiser sa vie autour de ça? Comment aménager une vie qui permette à la fois de trouver la guérison à cette maladie et en même temps qui puisse permettre qu'on puisse assumer la souffrance? Qu'on puisse vivre cette souffrance. Comment avoir une attitude qui facilite le travail de ceux qui sont là pour l'aider à s'en sortir. Et alors, une des solutions qu'il a trouvées, lui, c'est de dire, je vais vivre ce drame comme étant la plus merveilleuse aventure qui me soit arrivée dans ma vie. Je vais profiter de ce drame pour écrire une histoire que je vais raconter. Et donc, ceux qui connaissent le groupe Dionysos savent qu'il a sorti un album autour du vampire. Et vous savez, il a trouvé tout un thème comme ça avec le vampirisme, parce que, en rapport avec la question du sang. Et cet homme va s'en sortir. Au bout de, je ne sais pas combien de temps il a fait là, à l'hôpital, il va s'en sortir complètement guéri. Et il a préparé un album sur ce thème-là, il prépare un concert et même il veut faire un film sur cette histoire-là. Et le journaliste qui l'interviewe lui demande, est-ce qu'à un moment, as-tu eu des pensées sombres? As-tu eu des moments de doute? As-tu eu des moments de peur? Il a dit une chose qui m'a frappé. Il a dit, oui, bien sûr, j'ai eu peur. Oui, bien sûr. Je me suis posé des questions. Oui, bien sûr, j'ai douté que ça peut devenir dangereux pour moi, je peux mourir. Bien sûr, il a eu peur, mais il a dit, peut-on se laisser paralyser par la peur quand on est orienté vers la guérison, vers la recherche pure et simple de la guérison? Il a dit, il n'avait pas le temps d'avoir peur. Il n'avait pas le temps de se laisser paralyser par la peur. Il a combattu la peur. Voilà, juste en quelques mots, un peu ce que cet homme a vécu et a traversé. Dans nos souffrances, parfois, on peut être confronté à des situations pareilles. Et la question, c'est de savoir comment aménager cet espace pour que notre souffrance soit la plus grande pour Dieu. Que ça ne devienne pas l'occasion pour nous pour être méchants avec les autres, être durs, difficiles. Être en vouloir à Dieu, chercher à tout détruire, à tout casser, à se défouler dans la haine. Comment aménager cette souffrance? Surtout quand je passe à... Vous savez, il y a souffrir et souffrir, mes amis. En tant que pasteur, parfois j'en pleure. Parce qu'il y a des gens, quand ils vous racontent leur misère, vous ne savez rien faire. Vous vous rendez compte que vous êtes impuissant. Heureusement que Dieu est puissant. Vous vous rendez compte que vous, humainement parlant, vous n'avez rien apporté. Il m'est arrivé d'entendre les souffrances des gens et de pleurer avec eux. Et de terminer en pleurant avec eux et de partir sans dire, écoute, j'ai pas de solution, je ne sais rien faire. Quand une souffrance perdure, persiste, c'est pas évident. Hein? Mais comment faire? J'aimerais peut-être que cette histoire nous fasse tirer quatre choses intéressantes à faire pour vaincre les obstacles, cet obstacle, la souffrance, pour ne pas faire de cette souffrance une souffrance qui va nous emmener à régresser dans notre marche. Première chose, il faut apprendre à reconnaître notre souffrance. Il faut le dire, je souffre. Il ne faut pas faire semblant. Il faut être sérieux. Il faut être vrai. Je souffre, j'ai mal. J'ai mal pour ceci, j'ai mal pour cela. Ça me fait mal. Ça m'atteint profondément. Il faut donner un nom à cette souffrance, mais pas seulement donner un nom. Il faut aussi circonscrire cette souffrance en disant, voilà comment elle est et voilà là où ça me fait mal. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin qu'ensuite j'aille demander de l'aide. Que par la suite j'organise comment faire face à cette souffrance. Deuxième chose, je dois pouvoir reconnaître que la souffrance fait partie de la vie des humains. Je vous l'ai dit, c'est le lot de tout le monde. Moi, je souffre, c'est pas étonnant, je ne suis pas le seul à souffrir sur la terre. Il y en a aussi qui souffrent plus que moi. Et ceux qui souffrent plus que moi, il y en a qui souffrent encore plus que eux. La souffrance, c'est notre lot de tous les jours. C'est le lot de l'homme. Et en même temps, je dois pouvoir me dire que si j'ai un Dieu, Dieu maîtrise. Il maîtrise ma vie. Il a un plan merveilleux pour ma vie. Il se sert parfois de la souffrance pour m'amener pour le bien. Et donc, cette souffrance doit aussi être mise dans une perspective. Je ne vivrai pas que tout le temps dans cette souffrance. Un jour, ça sortira. Je sortirai de là. Un jour, je serai au ciel et je vivrai heureux. Romains chapitre 8, verset 18, nous met un peu en plan par rapport à ça. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ma souffrance va s'inscrire dans le plan de Dieu. Savoir que si je souffre aujourd'hui, même si je ne comprends pas, mais Dieu sait. Et non seulement Dieu sait, Dieu me sortira de cette souffrance. Et si Dieu ne me sort pas de cette souffrance, un jour je sortirai au ciel. Et au ciel, terminé, il n'y a plus de souffrance. Inscris cela dans le projet de Dieu. Troisième chose, en suivant la trame de ce jeune homme, ne pas se laisser prendre par les manœuvres de l'ennemi. Quand vous souffrez, première chose, regardez où est Dieu. J'ai toujours aimé une situation qui nous était arrivée avec Jean-Pierre Van de Voort. Quand Jean-Pierre Van de Voort était avec nous à Louvain-la-Neuve, nous étions tous les deux les responsables de la jeunesse. On s'occupait des jeunes. Et malheureusement, il y a un jeune qui a fait quelque chose qui... Enfin, voilà, c'était pas bien, quoi. Et donc, nous étions avec Jean-Pierre dans la voiture, avec une camionnette, donc il était au camp, lui. Il était gestionnaire du camp de Limoges. Et alors, il avait une petite Swift, comme ça, comment on appelle ça, une Nissan Swift, une petite, toute petite, là. Et il est venu me chercher, on allait chez lui. Et alors, je lui ai annoncé cette nouvelle. Ça nous a un peu perturbés dans la voiture. Moi, je n'avais pas fermé ma ceinture de sécurité. Pour plus faire. Et lui non plus, d'ailleurs, je crois. On était en train de parler, on était vraiment complètement dans nos trucs. Il pleuvait. Il y avait un peu de verglas. Mais on ne se rendait pas compte parce qu'à cette partie-là. On remontait, c'était tout près d'ailleurs de chez Violette. On remontait au petit chemin là derrière chez toi là pour aller au camp. Et tout d'un coup, la voiture a glissé. Et puis, on n'a pas maîtrisé. Et puis, bang, on a cogné un arbre. Et bon. Heureusement pour moi, dans le mouvement, j'ai d'abord cogné Jean-Pierre avant d'aller cogner ma tête sur la pare-brise. Vous savez que j'ai un peu amoché la pare-brise et puis j'ai eu des éclats sur ma tête, etc. Enfin bref. Mais on s'en est sorti. Je veux dire, sans des choses graves. Ce que je veux dire, c'est la façon dont Jean-Pierre a organisé cette situation qui m'avait frappé. Alors, nous sommes allés chez lui, bon, sa femme m'a dit, tu ne rentres pas à Louvain-la-Neuve, tu restes ici, il faut qu'on te surveille, on ne sait jamais s'il y a un problème, etc. Et donc, moi, je dors paisiblement jusqu'à 10h du matin, je me lève, et je vois Jean-Pierre en train de tourner autour de la Swift. Et dans le tourner autour, il a peut-être, le choc a peut-être été un peu, bon... Et puis je le tends vers lui, je dis Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as de faire? Il dit, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je demande à Dieu, cet accident, je ne comprends pas pourquoi ça a eu lieu. Et je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Et j'ai trouvé ça, c'était une vraie leçon pour moi. Je me suis dit, waouh, voilà un homme qui ne commence pas par aller chercher le diable, mais qui va d'abord chercher Dieu. Il ne va pas dire, oh, mais ça y est, c'est le diable, encore le plan machiavélique, c'est encore Noé. Noé, il m'a ensorcelé, il m'a envoyé du vaudou, et je ne sais pas moi, n'importe quoi, enfin bref. Non, on commence d'abord par penser, Seigneur, tout ça, ça a quel sens? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner avec tout ça? Aide-moi à rester attaché à toi, fidèle à toi, à agir toujours comme un bon chrétien qui respecte ta parole, qui vit ta parole. Le diable va nous toucher dans nos émotions. Il va nous toucher dans le regard des autres. On va se dire, ouais, comment les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et tout ça, ça va être quelque chose qui va nous perturber. Dernière chose, glorifier Dieu dans l'épreuve et même après l'issue. Même si l'issue n'est pas comme on le souhaite, glorifions Dieu. Il y a un exemple magnifique dans la Bible, c'est l'exemple de David. Vous savez que David a été avec Bathsheba, il ne devait pas faire ça. Ils ont eu un enfant, le prophète Nathan lui a annoncé que cet enfant, de toute façon, il va mourir. David s'est mis à genoux, il a supplié Dieu d'avoir pitié de cet enfant-là. Il a prié pour que le Seigneur fasse en sorte que cet enfant ne meure pas. Mais cet enfant est mort. Lorsque les serviteurs de David sont venus lui annoncer, ils s'attendaient à ce que David il pète un plomb. Non, David a dit, l'enfant est mort. Oui, ok. Il s'est levé, il s'est lavé, il s'est parfumé et il est allé au temple pour aller s'incliner devant Dieu et l'adorer. Conclusion. Je pense que nous devons accepter la souffrance, reconnaître qu'elle existe, reconnaître qu'elle a de l'effet sur nos vies, qu'elle peut être destructeur dans nos vies. Mais refusons que la souffrance nous rende aigris. Refusons qu'elle bloque notre progression spirituelle, qu'elle fasse de nous des gens difficiles à l'égard des autres. Refusons ça. Nous avons un argument de taille pour ça. L'argument de taille, c'est Jésus lui-même. Jésus est passé par la souffrance, une souffrance indépendante de sa volonté, une souffrance injuste, une souffrance qu'il ne méritait pas. Il est passé par ça. Mais non seulement il n'a pas été aigri, non seulement il a continué à progresser dans sa mission en tant qu'envoyé de Dieu, mais Jésus, en mourant à la croix, il a été une source de bénédiction pour tous les hommes et particulièrement pour ceux qui sont sauvés. C'est un exemple de souffrance. Bien sûr, il y a le texte que Paul a évoqué, donc avec Jacques, que je n'avais pas mis dans ma liste, avec Jacques chapitre 5, verset 11 ou 12, où il dit prenez pour modèle de souffrance les prophètes et tous ces hommes qui ont été fidèles à Dieu malgré la souffrance. Et notamment, on a cité le cas de Job. Ah, c'est ça. Oui, voilà, tu descends, donc c'est 11, hein, 10, 11, je pense. Hein. Voilà. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu aussi la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voyez. Mais par-dessus tout, par-delà cet exemple de ces hommes, il y a l'exemple de Jésus, qui est le modèle par excellence de la souffrance. Je termine avec ce texte des Hébreux, qui en parle d'ailleurs. Hébreux chapitre 2, verset 10. Regardez. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection de quel moyen ? Par les souffrances, le prince de leur salut. Jésus-Christ est le modèle de la souffrance. Alors, dans nos moments difficiles, lorsque la souffrance nous envahit et qu'elle est en mesure de nous rendre incapables d'avancer spirituellement, capables de produire des œuvres pour Dieu, capables d'être fructueux pour le Seigneur, pensons aussi à Jésus. Pensons à toutes ces souffrances. Souvent, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous faisons souvent quand nous allons nous exhorter les uns les autres. On dit aux gens, ben, écoute, pense à Jésus. Tu es humilié, tu es maltraité, etc. Mais pense à c'est que tout ce que Jésus a enduré. Et en pensant à Jésus, vis ta vie par-delà les souffrances. Organise ta vie de façon à ce que la souffrance soit l'occasion pour toi de glorifier Dieu, plutôt que de te plaindre, plutôt que de t'éloigner de Dieu ou de rendre la vie des autres difficile. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le fait que nous pouvons y trouver de quoi nous exhorter, de quoi nous encourager. Et ce matin, nous voulons nous encourager autour de la souffrance qui est une réalité incontournable, qui est une réalité qui fait partie du lot des humains et qui pourtant n'est pas quelque chose de désirable, d'agréable pour nous. Et merci parce que nous savons aussi que toi, notre Dieu, alors que tu n'as pas éliminé la souffrance, mais tu l'as utilisée pour que nous soyons plus avancés avec toi, plus intimes avec toi, plus proches avec toi et plus qualifiés pour ton œuvre, pour ton service. Merci Seigneur de nous aider à cheminer dans nos situations de souffrance personnelle. Au nom de Jésus. Amen.